Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. À la rencontre d'un auteur. Un épisode hors série pour plonger dans les coulisses des actions culturelles du festival. Accompagné par la critique littéraire Élodie Caraki, deux classes de lycéens marseillais se sont entraînées à interviewer Olivier Adam autour de ses romans « Des vents contraires » et « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Voici donc un entretien pour découvrir à la fois l'univers d'un auteur français parmi les plus adaptés au cinéma et les préoccupations des adolescents d'aujourd'hui. Une rencontre un peu différente avec Olivier Adam, animée par Eddy, Lara, Wassim, Yasmine, Khadija et Soueb. Et enregistrée en public en mai 2023 à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours.
Bonjour à tous, bienvenue à l'Alcazar, merci à l'Alcazar de nous accueillir. Cette rencontre donc avec l'auteur Olivier Adam s'inscrit dans le cadre d'un projet d'action culturelle que l'on porte dans le cadre du festival littéraire Oh les beaux jours qui a commencé mercredi, qui se termine lundi. Donc je vous invite vivement à découvrir le programme. Le parcours consistait en quoi ? Nous avons travaillé avec Élodie Caraki, qui est ici, qui est critique littéraire, avec le lycée Victor Hugo et le lycée Perrier de Marseille. Chaque classe, une classe de seconde et une classe de première, ont suivi 5 ateliers de 2 heures avec Élodie Caraki autour de 2 ouvrages d'Olivier Adam, que sont « Je vais bien, ne t'en fais pas », « Des vents contraires », afin de préparer l'interview que vous allez entendre dans quelques minutes. On les remercie, c'est une première pour eux. Ils ont durement travaillé avec Élodie. Voilà, donc tout va bien se passer, j'en suis certaine. Merci à Olivier Adam de se prêter au jeu. Merci évidemment aux élèves, ça va de soi. Merci aux enseignantes qui ont accompagné et porté le projet. Merci à Élodie, évidemment, qui était là pour animer les ateliers, pour les guider, les aiguiller. Je vous rappelle également qu'il y a une petite librairie donc, où il est possible d'acheter quelques ouvrages à la sortie de la rencontre. Et puis également vous signifier qu'on aura le plaisir de retrouver Olivier Adam lundi au conservatoire dans le cadre du festival pour une lecture musicale autour de son dernier livre de Dessous les roses. Tous les détails dans le programme. Et je vous laisse la parole.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous Olivier Adam. Donc on se présente, moi je suis avec mon camarade Eddy et moi je m'appelle Soueb. Et aujourd'hui nous sommes très heureux avec nos camarades ici présents, de vous rencontrer. Nous sommes des élèves du lycée Victor Hugo de première ainsi que des élèves de seconde du lycée Perrier. Nous sommes venus partager avec vous nos lectures avec 2 de vos romans, Je vais bien, ne t'en fais pas, publié en 2000 aux éditions de la Dilettante, ainsi que Des vents contraires, publié en 2009 aux éditions de l'Olivier.
Afin de préparer cet entretien, chaque classe a travaillé en atelier pendant 5 séances de 2 heures avec la critique littéraire Élodie Caraki dans le cadre du programme À la rencontre d'un auteur, accompagné de Émilie Ortuneau.
Olivier Adam, vous êtes romancier.
C'est peut-être coupable.
Bien sûr. Vous avez publié de nombreux livres et de nouvelles. Votre dernier roman, Dessous les roses, est paru l'année dernière chez Flammarion. Vous avez aussi publié des livres de la jeunesse aux éditions École des loisirs. Plusieurs de vos romans ont été adaptés au cinéma, souvent avec votre collaboration.
Nous allons présenter rapidement les 2 romans dont nous allons parler. Je vais bien, ne t'en fais pas, raconte l'histoire de Claire, dont le frère Loïc a mystérieusement disparu. Claire, dans le roman, est une caissière, dont le frère Loïc a disparu. Et au début du roman, elle passe sans cesse à son frère, et ça lui fait beaucoup de mal quand son frère n'est pas là. Il y a ensuite un flashback qui nous replace au moment où les parents annoncent à leur fille qui rentre de vacances que Loïc a disparu. Claire, bouleversée, ne va pas supporter l'immobilisme de ses parents. Elle va trouver la force de mener l'enquête à partir du moment où Loïc, par une carte postale, lui envoie un signe.
Des vents contraires raconte l'histoire de Paul, jeune écrivain et père de 2 enfants qui s'appellent Manon et Clément. Tous les 3, ils font face à la disparition subite et mystérieuse de leur femme, de la Marie, Sarah, et la femme de Paul, ainsi que la mère des enfants, du coup. Pour dépasser cette situation infernale et se reconstruire, Paul, il décide de déménager dans sa ville natale. Pour dépasser cette situation infernale, en bord de mer, près de son frère Alex, afin qu'il reprenne goût à la vie. Mais ce n'est pas sans difficulté, surtout que de mystérieuses disparitions vont s'ajouter à celles de Sarah et réveiller des souvenirs.
Durant cet entretien, nous aborderons les différentes thématiques évoquées en classe, comme le motif de la disparition, certains personnages qui nous ont marqués, la construction romanesque et notamment les fins que vous avez choisies pour vos différents romans qui ont suscité chez nous de nombreuses réactions. Et sur ce, je vous laisse avec nos illustres collègues qui vont continuer l'entretien.
C'est moi.
Merci.
Commençons par le motif de la disparition. Ne t'en fais pas, nous avons remarqué que la disparition de Loïc provoque beaucoup de sentiments différents et variés chez les personnages et chez le lecteur aussi. De l'incompréhension, de la tristesse, de l'espoir, du désespoir, de l'inquiétude, mais aussi des remords, voire des regrets, chez Paul, le père de Loïc. Cela déclenche aussi de l'imagination. Claire fait plein d'hypothèses sur ce qui a pu provoquer la disparition de son frère Loïc, et cela crée d'ailleurs beaucoup de suspense chez le lecteur. Est-ce que par cette diversité de sentiments, vous vouliez provoquer des effets aussi différents chez le lecteur? Est-ce que aussi vous pouvez raconter la richesse de ce motif de la disparition pour un romancier?
Bonjour à tous d'abord, et merci de m'accueillir ici, d'avoir travaillé sur ces livres. La disparition, alors d'abord, finalement, parce qu'il n'y a pas que dans ces deux livres-là qu'il y a des gens qui disparaissent dans mes livres, c'est une obsession. Parfois même, je me lance un pari, je me dis tiens, l'an prochain, il n'y aura pas de disparition, et sans que je me rende compte, il y en a quand même une. Bon, voilà. Des fois, on est l'otage de ses propres obsessions quand on écrit. Et je crois qu'une de mes obsessions, c'est pas tant ceux qui disparaissent que ceux qui restent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec nos disparus ? Et je crois que si je fais ça, c'est parce qu'il me semble que les romans sont précisément là pour parler de ce qui nous occupe, nous effraie. Le plus. Et je pense que parmi ce qui nous effraie le plus, il y a la disparition de nos proches. Leur volatilisation, leur disparition quand ils sortent de nos vies, quand il y a une rupture, rupture amoureuse, rupture entre des parents et des enfants, et puis la disparition la plus radicale qui soit, qui est la mort, et qui est un sujet que, à la fois par superstition, mais aussi par... parce qu'on est dans des sociétés où il faut toujours se remettre de tout très rapidement, il faut être résilient, comme on dit, où il faut être productif. Et ben forcément, c'est la difficulté qu'il y a à vivre avec nos disparus, avec ceux qu'on aime et qui ne sont plus là, qui ne le seront peut-être plus jamais, c'est pas très productif, quoi. C'est pas très cool, c'est pas très... voilà. Et je pense que les livres sont là pour... nous parler de tous ces sujets qu'on met tout le temps sous le tapis ou sur lesquels on n'a pas vraiment le temps de s'attarder au quotidien alors qu'ils sont le cœur même de nos vies. Les liens qu'on a avec ceux qu'on aime, encore une fois, ceux qu'on fait de nos fantômes, de nos disparus, comment on survit à ça, comment on continue avec ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc je crois que c'est pour ça que je continue d'explorer parce que précisément, il n'y a pas de réponse et que personne ne sait vivre avec ça. Personne ne sait vivre avec la disparition de ceux qu'on aime. Personne n'y arrive. On fait semblant, enfin on essaye, mais chacun fait comme il peut. Mais on n'a toujours pas de clé pour ça, et il n'y en a pas, sans doute. Bon, et puis l'autre chose, c'est que la disparition, c'est un motif romanesque hyper fécond, hyper riche, parce que, comme je le disais, ça provoque des ressentis extrêmement variés. Ça met les personnages, quels qu'ils soient, dans une situation d'extrême fragilité. Et moi, j'adore ça. C'est un peu horrible, mais j'adore mettre mes personnages dans une situation extraordinaire qui les dépouille de leur carapace et qui les met dans une situation de très grande humanité fragile. Les moments où ils vont se révéler dans toute leur humanité, leur fragilité et ce qu'ils sont derrière le costume, quoi. Le costume d'écoliers, de travailleurs, de pères, de mères, de frères, de sœurs, de ce qu'ils sont profondément. Et puis, dernière chose par rapport au motif romanesque, c'est que nécessairement, dans le cas où c'est une disparition qui n'est pas celle du deuil, mais une disparition subite et inexpliquée, comme dans ces deux livres, eh ben forcément, il y a une forme d'enquête Il y a une forme de, il y a plein de conjectures, il y a plein de, d'hypothèses quant aux causes de cette disparition. Et donc ça, forcément, il y a tout de suite des histoires. Voilà.
Claire, quand nous la rencontrons, au début de l'histoire, est un personnage fragile, vulnérable. Elle est entourée de personnages secondaires. Les clients du Chopi, Nadia, les amis de Nadia, Antoine. On a remarqué que Loïc lui manquait précisément dans ses rapports aux autres. Soit elle se protège trop, soit elle ne se protège pas assez. Elle dit souvent que Loïc aurait su l'aider à chaque fois. Ces personnages qu'elle rencontre, souvent négatifs et hypocrites, les avez-vous choisis pour montrer à quel point Loïc manque à Claire ?
Oui, en un sens. Alors, je les ai choisis d'abord, effectivement, pour comment dire, elle est dans cette situation de fragilité extrême que je décrivais tout à l'heure parce que son frère a disparu, elle ne sait pas où il est, elle avait un très grand attachement à lui et il fonctionnait. Alors voilà, ça aurait pu être le contraire, mais dans des duos comme ça, il y a souvent l'un qui protège un peu l'autre ou qui est plus acteur que l'autre et elle était quelqu'un qui, dont la fragilité et la discrétion trouvait de la comment dire elle était enfin elle Loïc l'entraînait avec elle dans tout où qu'il aille et quoi qu'il et vraiment je voulais voilà sans lui elle est voilà ça tient plus, elle sait plus vraiment comment faire, et d'ailleurs on découvre dans le flashback qu'elle a complètement dévissé à un moment donné et elle essaye et l'autre chose c'est que les gens qui sont en face d'elle, je voulais beaucoup travailler là-dessus, sont des gens qui, en général, sont d'un autre milieu que le sien. Elle est caissière pour gagner sa vie. Les autres, ses collègues, sont caissières pendant qu'ils font leurs études. Ils ont poursuivi le fil de leur vie normale. Ils vont à l'université, en même temps ils sont au caissier pour financer leurs études. Mais elle, tout s'est arrêté du jour où son frère a disparu. C'était pas cette voie-là qu'elle aurait dû prendre normalement. Et puis elle va rencontrer aussi dans l'entourage de ses amis, de sa collègue. Des gens qui, pour le coup, eux, n'ont pas besoin de travailler pour financer leurs études et qui sont d'un tout autre milieu social qu'elle. Et elle va subir une forme de, comment dire, de décalage entre ce qu'elle connaît, elle, son milieu à elle, et la vie que mène et les comportements de ces autres personnes qui vivent dans un autre milieu. Beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus et voilà, et elle va éprouver face à eux cette espèce de voilà de mépris dans laquelle de mépris qu'il y a dans le regard des autres. Bon, quand on lui demande et sinon tu fais quoi dans la vie pour de vrai, et qui répond bah non, pour de vrai je suis caissière quoi, c'est juste mon métier, je travaille comme ça. Et tout à coup ces gens étudiants, je ne sais où, dans leurs grands appartements, la regardent de haut et la délestent d'emblée. Elle ne vaut plus rien dans leur regard. Quoi. Voilà. Donc je voulais travailler aussi, c'est très présent dans le livre, cette question-là, des frictions de milieux sociaux et du mépris de classe. Voilà.
Dans les vents contraires, il est aussi question de disparition. Paul est un personnage complexe qui doit faire face à la disparition de sa femme. Il éprouve une profonde tristesse. Il se sent parfois perdu dans ses pensées quand les souvenirs lui reviennent des moments vécus avec Sarah. Il se sent perdu, mais il fait énormément d'efforts pour s'occuper de ses enfants. Vous parlez plus des émotions de Paul que celles de ses enfants, même si c'est lui qui se focalise sur eux. Pourquoi avoir justement choisi cette focalisation sur Paul tout au long du livre ?
Alors, d'abord, en fait, au début, moi, je voulais faire un livre sur le fait d'être père. Il se trouve que c'est une expérience que je connais bien, mais que c'est une expérience intellectuelle, intime, psychologique, extraordinaire. Et en fait, pour plein de raisons qui seraient un peu longues d'analyser, c'est très très absent, ou ça l'a été très longtemps très absent du roman. La question de la... Souvent, les livres sur la paternité, c'était des livres où des trentenaires se demandaient sans fin s'ils allaient être pères, s'ils n'allaient pas perdre leur liberté, s'ils n'allaient pas se cadenasser en devenant pères. Donc en fait, c'est des livres qui parlaient du fait de ne pas vouloir être père, finalement. Ou d'hésiter longuement, ou de fuir. Et ils devenaient pères et ils se barraient, quoi. Parce que, soi-disant, c'était vraiment trop... Hein. Et je pense que les auteurs trouvaient ça hyper classe de faire des mecs qui se barrent dès qu'ils ont des enfants. Ça faisait très mec, très viril, et très, très con, quoi. Mais, et sinon, l'autre motif qui est parallèle du livre sur les pères, souvent, c'était des pères qui se rendaient compte, alors que leur gamin avait 15 ans, qu'ils étaient passés à côté de lui, qu'il avait, s'en était jamais vraiment trop occupé. Alors, en général, ils l'emmènent à la pêche ou camper. Et là, pendant quelques jours, ils vont essayer de rattraper un peu le temps perdu et de se reconnecter avec tout. Voilà. Ou alors, ils disent, tiens, allez, on va faire une partie de baseball, je t'apprends à faire des passes et tout ça. Et c'est comme si ça allait... Ouais. Et donc, on est dans la paternité manquée, tout le temps. La paternité contournée ou manquée. Enfin, ça a beaucoup été comme ça. Et en fait, vraiment, ce que c'est que d'être père, de s'occuper de ses enfants, d'échanger avec eux, de les aimer, de prendre soin d'eux, bah, je sais pas, ça devait être un truc pas assez viril pour nos amis les auteurs masculins, quoi. Et donc ce n'est pas rentré dans la littérature. Et moi, j'ai souvent, très souvent, mon réflexe, c'est de me dire, mais merde, là, il y a un truc qui est hyper important dans nos vies, dans la mienne. Alors, soit un truc intime, comme ça, être père, soit des fois des questions éminemment politiques. J'ai fait pas mal de bouquins et de films autour de la question des réfugiés et des migrants. Et je me dis, mais en fait, mince, quoi. Personne n'en parle ou personne n'en parle comme il faudrait. Et donc, à la base, je voulais faire ça. Je voulais rectifier ça. Je pense que souvent, les romans, il s'agit de rectifier. On parle très mal partout des choses. Et dans les romans, on essaye d'en parler mieux, de mettre des mots plus précis dessus, d'en parler dans une complexité à laquelle on n'a pas accès sinon. Et donc, mon réflexe pour arriver à parler d'un père et de son lien avec les enfants, bah, j'ai viré la mère, quoi. C'est commencé comme ça. On va dire, voilà, là, je suis vraiment focalisé sur la question de la paternité. Et bien sûr, c'est, là encore... Dans une situation de très grande adversité et de très grande fragilité, ce père doit triplement être père parce que non seulement il est tout seul avec ses enfants, mais en plus, il faut qu'il les fasse tenir debout dans l'attente hypothétique et la terreur que suscite la disparition de leur mère et le manque affectif et le chagrin et la peur, etc. Donc il doit être un super père, quoi. Il doit être le Superman du père. Et... alors que lui-même ne tient pas debout, quoi. Il doit faire face à ce que... Enfin, c'est un peu comme une métaphore, quoi. C'est-à-dire que dans l'exercice de la paternité ou de la maternité, il y a un truc, c'est que vous ne pouvez pas, le matin, si vous êtes vraiment fracassé de la veille, ou de chagrin, ou de terreur, il faut être là pour vos enfants, quoi. Et eux, ils comptent sur vous, et dans leur regard, vous devez être fort, quoi. Enfin, vous devez être fort. Non, mais vous devez être fiable. Voilà. Vous devez ça pour vos enfants. C'est à vous d'être fiable pour vos enfants, quoi. C'est pas à vos enfants de vous consoler et tout ça. C'est vous qui devez consoler tout le temps vos enfants. Et à un moment donné, vous devez leur dire que ça va bien, quoi. Que vous êtes là, vous levez le matin, vous leur faites le petit déjeuner, vous les amenez à l'école, vous les habillez, le soir vous leur faites prendre leur bain, vous leur racontez des histoires, vous leur dites que vous les aimez, vous jouez au Lego avec eux même si c'est chiant, vous leur écoutez raconter leurs histoires sans queue ni tête et tout ça, et vous devez le faire, même si vous êtes crevé, même si vous êtes triste, etc. Et s'ils font des caprices, et ben, vous les consolez, vous essayez d'être gentil avec eux, de comprendre ce qu'ils font et tout ça. Et donc là, c'est puissance 50, quoi, voilà. Donc c'est aussi l'idée souvent de prendre non seulement de plonger des personnages dans une situation justement qui est un peu extrême, et puis c'est exagérer le truc, quoi. C'est quand même mettre un microscope, quoi, voilà, là-dessus. Donc vraiment c'était ça l'idée, de à la fois de faire disparaître la mère, Sarah, et surtout d'être sur comment Paul s'en sort avec les enfants, puisque vraiment c'était ça le sujet pour moi. C'était un père avec ses enfants du point de vue du père. Après, ce qui fait qu'on se descende de Paul, c'est la voiture d'auto-école. Il est moniteur d'auto-école, et donc chaque personne qui rentre dans sa voiture, c'est une histoire. Donc il devient quelqu'un qui accueille les histoires des autres. Il devient quelqu'un dont le grand vide à l'intérieur laissé par la disparition de sa femme va être rempli, il va le laisser se remplir parce que les autres vont déposer en lui de leurs propres histoires, de leurs propres ennuis, de leurs propres questions, de leurs propres tristesses, etc. Et voilà, donc ça c'était vraiment l'idée de ça, c'était la voiture où quelqu'un s'assoit à côté de lui et lui il est comme un psy un peu, il leur dit comment ils doivent conduire, mais surtout il les écoute parler, quoi. Et ça remplit son propre vide, permet d'accueillir tout ça.
On apprend la disparition de Sarah par les mots de Manon. Ça se passe dans les premières pages, au moment du déménagement. Ça produit des effets puissants, car on comprend que la petite fille doit quitter la maison où elle a toujours vécu et qu'elle a peur que Sarah revienne et ne le retrouve plus. Est-ce pour montrer l'extrême fragilité des enfants que vous informez le lecteur de la disparition de Sarah par la voix de Manon ?
Oui, bah c'est, et puis je trouvais la scène justement très à hauteur d'enfant, c'est-à-dire que leur mère a disparu, on a vraiment aucune, et ça fait longtemps maintenant. Et ils doivent déménager parce que Paul n'écrit plus rien, du coup il gagne plus un rond, et son frère lui dit. Enfin, il extorque à son frère le fait de peut-être bosser dans la boîte d'auto-école de son frère, ce qui implique de retourner à Saint-Malo, là où il a grandi. Et Manon, dans tout ça, dans le déménagement, sa manière de dire son inquiétude et aussi sa tristesse de quitter ses amis et la maison où elle a grandi, ça se traduit par « mais si on s'en va, maman ne nous retrouvera pas ». Ce qui est en même temps une naïveté, parce qu'il y a des téléphones, il y a tout ce qu'on fait. Enfin, si la mère réapparaît, elle n'a aucun problème pour retrouver la trace de Paul. Et je voulais qu'on soit tout de suite très à hauteur d'enfant dans cette manière de vivre cette disparition. Quoi. Voilà.
Nous voudrions aussi évoquer les liens forts qui se dessinent entre les personnages, notamment entre Claire et Loïc. Claire lit les mêmes livres que Loïc, elle écoute sa musique, elle décide de vivre dans un quartier qu'il aimait. Sa vie est totalement bouleversée quand elle disparaît. Elle perd pied, elle ne mange pas, elle maigrit. Est-ce qu'on peut parler d'une dépendance entre Loïc et Claire ?
On peut parler d'amour, quoi. Enfin, d'amour fraternel, je sais pas comment on dit, enfin, entre un frère et une sœur. On peut parler de dépression, on peut parler d'anorexie, qui est une forme de la dépression dans son cas, et de deuil qui... de deuil impossible, même si elle pense simplement qu'il a disparu. Tout le processus du livre, finalement, c'est qu'elle apprendra la vérité quand elle sera prête à la recevoir, finalement. C'est-à-dire que... Bon, je spoil la personne, hein, parce que le film est passé 120 000 fois à la télé, donc tout le monde sait que... il est mort et que le frère, que c'est le père qui envoie les cartes postales, hein, donc ça, il n'y a pas de gros suspens. Je gâche rien. Et en fait, elle va l'apprendre après avoir fait presque toutes les étapes du deuil, d'une certaine manière. Après avoir été en colère contre lui, après avoir été totalement abattue, après avoir voulu elle-même disparaître, hein, parce qu'arrêter de manger. C'est une volonté de disparaître, mais très presque physiquement, de s'amaigrir tellement qu'elle. Alors dans le film, c'est beaucoup plus poussé, hein, tout le rapport à l'anorexie. Il y a même des passages précis sur le va à l'hôpital, l'équipe psychiatrique essaie de la refaire manger. Là, il y a tout un protocole très compliqué. Elle n'a pas le droit aux visites. Elle n'a même pas le droit à la musique. Elle n'a pas le droit. Et ça marche pas. Et au fond, c'est aussi un ressort romanesque, c'est-à-dire que le père a déjà perdu son fils et il voit sa fille en train de disparaître elle-même. et il s'enferme dans un mensonge, mais sa seule solution, c'est cette histoire de carte postale pour lui redonner l'espoir, voilà, et qu'elle revienne au monde, quoi. Même si évidemment que c'est une folie, puisque c'est une manière mais d'une certaine manière, les étapes les plus dures, elle les aura déjà faites presque. Voilà. Et après, oui, y a des gens c'est difficile de vivre sans eux. Des gens qui sont nos, ça peut être, comment dire, l'amour de votre vie, ça peut être un frère, un ami. On a tous éprouvé ça, on éprouvera tous ça malheureusement. Il y a des personnes dans notre vie où, quand ils disparaissent de la circulation, on se dit juste, on ne sait pas comment on va bien pouvoir faire, quoi. Voilà. Et c'est pas de la dépendance, c'est de l'amour, quoi. Voilà.
Nous avons aussi remarqué que dans certaines scènes, c'est Paul qui trouve du réconfort auprès de ses enfants. Il vient les chercher à l'école seulement pour passer des moments avec lui, avec eux sur la plage. On voit justement qu'il a besoin d'eux. Est-ce que cela vous importait d'inverser les rôles à certains moments de l'histoire ?
C'était aussi pour montrer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que y a à la fois cette chose que être père, c'est bien sûr apporter de la protection, du soin, élever, éduquer, etc. Donc c'est dans ce sens-là, mais ce sont les enfants qui nous élèvent aussi, qui nous changent, qui nous font grandir, mûrir, et qui nous nourrissent, quoi. Voilà. Je réponds trop longtemps aux questions, il faut faire des questions. Sinon, je peux faire plus court mes réponses. S'il n'y a pas de. Donc voilà, c'est un vrai échange, et c'est pour ça que c'est une relation. Si riche que celle qui nous, quand ça se passe bien, qui nous lie à nos enfants. Ils nous donnent ils nous prennent des forces, mais ils nous en donnent aussi. On les élève, mais ils nous élèvent. On les console, mais ils nous consolent. Et voilà.
On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais il y a un personnage secondaire qui nous a beaucoup marqué. C'est le père de Claire et Loïc, Paul, encore une fois, mais c'est pas le même Paul. C'est le personnage préféré de certains d'entre nous, comme moi d'ailleurs. Il est torturé, plein de remords, mystérieux. Il ne montre pas ses émotions. Il reste de marbre. On ne sait pas le fond de sa pensée, mais on sait que la disparition de Loïc l'a marqué et que ça lui fait du mal, et qu'il se sent coupable. Il va aussi sauver sa fille à ce moment de l'histoire, même s'il ne le fait pas pour le mensonge, en lui envoyant des cartes signées de la main de Loïc. Est-ce que vous pourrez nous raconter comment vous l'avez imaginé ? Est-ce que, aussi, vous avez une forme d'empathie pour lui ?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui était assez amusant quand on a écrit le film après, c'est que le réalisateur avec qui j'ai écrit ce film est beaucoup plus âgé que moi. Plus âgé que moi. Et moi, quand j'ai écrit le livre, j'avais 23 ans. Et je l'ai écrit à l'horizontale avec à hauteur de Claire, quoi. C'est-à-dire que c'était à elle que je m'identifiais, ou à Loïc, enfin, peu importe. Et le père était je le voyais comme un père. Alors que le réalisateur, lui, il avait des enfants de 20 ans, qui avaient une vingtaine d'années. Donc lui, il voyait toute l'histoire du point de vue du père. Pour lui, le héros, c'était vraiment le père. Et d'ailleurs, quand on a fait le film, on l'a écrit comme ça. Le livre, c'est l'histoire d'une fille qui a perdu son frère et à qui on fait croire qu'il est en vie alors qu'il est mort. L'histoire du film, c'est l'histoire d'un père qui a perdu son fils et qui va perdre sa fille et qui va la sauver avec un mensonge complètement fou en lui faisant croire qu'il est encore en vie. Voilà. Moi, c'est l'histoire d'une fille qui a un père. Le film, c'est l'histoire d'un père qui a une fille. Mais dans les deux cas, ce qui est très commun, c'est que le père, il était inspiré de nos pères à nous. Enfin, quand je dis nos pères, hein, c'est pas mon père ou le sien en tant que tel, c'est les pères de cette génération-là, parce que je suis bien plus âgé que vous, et on a eu des pères pudiques à l'extrême, qui n'avaient ni les mots ni les gestes, d'affection dont les pères aujourd'hui peuvent témoigner. Et pour qui témoigner de son amour, c'est dans les actes, quoi. Tout est rentré, tout est engoncé. Et le geste qu'il fait pour sa fille est à la fois fou et plein d'amour, quoi. Et on peut penser que dans le livre, il se sent responsable de la disparition de son fils. Il sent qu'à un moment donné, il n'a peut-être, il s'en veut peut-être à un moment donné de n'avoir pas vu des choses, de n'avoir pas su dire les mots qu'il aurait su dire, ou d'avoir dit les mots qu'il n'aurait pas fallu dire, d'avoir eu les mauvais gestes, ou d'en avoir pas eu assez. Et moi, ça me touche beaucoup, cette génération de pères pudiques, rentrés, empêchés, quoi. Mais où il y a de l'amour, quoi. Donc oui, c'est de toute façon le personnage le plus important du livre, d'une certaine manière. Il arrive que qu'un personnage qui a en apparence secondaire soit le vrai héros du livre, quoi. Et du film aussi, d'ailleurs.
Comme nous le disions dans la présentation, il y a d'autres disparitions dans Des vents contraires. Celle du petit Thomas et de son père, le déménageur. Celle de Justine qui prend des cours de conduite avec Paul. Et celle de l'inspecteur José Combes. Ce personnage secondaire de l'inspecteur nous a beaucoup intéressés, car il permet de voir la disparition d'un proche, d'un autre point de vue. En effet, c'est lui qui a disparu de la vie de sa fille quand elle était petite. Avec Combes, nous avons le point de vue de celui qui part et non de ce qui reste. Est-ce que dans le cas où Sarah avait disparu volontairement, le personnage de Combes est là justement pour nous attendrir et nous faire comprendre sa démarche ?
Bah, il est là pour d'abord effectivement créer une sorte d'envers aux disparitions que subissent les autres, un point de vue contraire. Il est là aussi pour faire perdurer l'idée que Sarah a pu disparaître volontairement. C'est pas bon, pour moi c'est pas un livre qui fonctionne sur le suspense, hein, c'est plus comme des frottements de situations qui vont venir en écho avec celles que vit Paul et donner corps à des hypothèses, quoi, à des hypothèses quant à la disparition de Sarah, et qui se permettent d'avoir des hypothèses qui sont pas définitives dans le cas de Combes, par exemple. L'idée que peut-être elle est là quelque part, qu'elle va revenir ou que peut-être même elle est pas si loin que ça, qu'elle reviendra quand elle sera prête à revenir, et que Paul se dit que un jour il se dit avec le coup qu'elle nous a fait, si elle revient, ça se passera mal. Et puis un jour, il se dit, mais bien sûr qu'elle reviendra dans nos vies sans questionnement possible, quoi. Donc voilà. Et puis après, c'était l'idée d'avoir un inspecteur qui lui-même, qui dans ses recherches, va faire preuve d'une empathie avec Paul. Parce qu'il comprend il comprend cette question d'une certaine manière, quoi. Voilà. C'est aussi dans sa vie cette question de disparaître de la vie d'un enfant, comme le fait Sarah. Voilà. Et puis après, moi, quand j'invente des personnages comme ça, je ne cherche pas l'utilité qu'ils ont. Je me dis pas, tiens, je vais le faire comme ça pour montrer ceci ou cela. C'est juste qu'à un moment donné, je ne sais même pas comment ça vient, je le vois emmener Paul à un match de boxe. Alors, ça fait très longtemps que j'ai écrit ce livre, hein, donc je ne l'ai pas lu entre-temps, mais il me semble que c'est ça. Et il va voir boxer sa fille en cachette, il me semble, voilà, sans lui dire qu'il est là, en fait, parce qu'il n'ose pas. Et en fait, c'est juste une scène qui m'émeut, moi, que je trouve belle. Et donc, je l'écris parce que parce que je la trouve belle. Je raisonne pas en utilité dans le récit. Voilà. C'est juste, je me dis, tiens, c'est un beau personnage, il me plaît, Et je me dis, voilà, ce mec qui va voir sa fille en cachette boxer, Paul avec ses deux enfants qui les tient à bout de bras alors que leur mère a disparu, c'est une chouette fraternité, quoi. C'est un chouette duo de mecs qui ont l'air comme ça un peu bourrus, un peu pas commodes, et puis qui sont dévastés tous les deux. Et ça me plaît qu'il y ait un compagnonnage comme ça entre eux, tout simplement, de les faire se côtoyer, et se rencontrer. Vous savez, c'est un peu comme, je sais pas, quand j'écris pour le cinéma, des fois on invente des rôles juste parce qu'on a envie parce qu'on se dit tiens, ça serait bien qu'il y ait tel acteur qui soit dans le film. Enfin, on les voit bien quoi ensemble, donc on invente un autre personnage juste pour le plaisir d'imaginer les personnages et les acteurs se rencontrer quoi.
Ces personnages secondaires permettent aussi d'évoquer un sujet qui nous a beaucoup intéressés, celui des discriminations sociales. Il y a cette scène où Claire se fait insulter par un client du magasin et elle s'enfuit tellement c'est insupportable. Il y a aussi le moment où, dans une soirée avec les amis de Nadia, quand on lui demande ce qu'elle fait dans la vie, elle dit qu'elle est caissière. Elle est immédiatement ignorée et méprisée. Comment avez-vous fait pour écrire des scènes aussi vraisemblables ? Êtes-vous issu de la banlieue ? Avez-vous connu dans votre vie des situations de discrimination sociale ?
Alors oui, moi je viens de banlieue parisienne j'en ai sinon subi, j'en ai beaucoup observé autour de moi et c'est surtout que quand je suis arrivé c'est un peu un hasard parce que en vrai j'ai pas vraiment choisi mais bon enfin bon je me suis retrouvé dans une université qui est située dans le 16e arrondissement de Paris et qui est une fausse université parce que c'est une université où on ne pouvait pas rentrer sans avoir mention bien au bac. Donc c'était une université sur dossier sélective, etc., etc., qui ressemblait plus à une école, quoi. Et comme souvent dans ces écoles hyper sélectives, même si c'était public, hein, c'était pas privé, donc il n'y avait pas de question d'argent, mais je me suis retrouvé dans un contexte social extrêmement différent de celui dans lequel j'avais grandi, avec des gens qui étaient vraiment que des enfants de bourgeois, quoi, vraiment, avec des maisons secondaires, avec des lieux de vacances très... je veux dire, ils avaient des cartes bleues, ils allaient pas au Crous manger à deux balles, ils allaient carrément à la brasserie d'à côté se faire un croque-monnaie. Donc ils me disaient, tu viens manger avec nous ? Mais où ça ? Moi j'allais au Crous, et non, et eux ils partaient dans une brasserie du 16e manger l'équivalent d'un burger à l'époque à 20 balles, quoi. Ça me paraissait fou. Et quand ils me demandaient, eux ils rentraient dans leurs appartements. Des quartiers chics parisiens. Moi, j'avais une heure et demie de RER pour rentrer dans ma banlieue, où je vivais très bien d'ailleurs, hein, c'est pas la question. Mais quand je leur disais que j'allais prendre le RER jusqu'à Juvisy, qui est une ville de banlieue tout près de la mienne, où je descendais RER, ils me regardaient, mais comme si j'étais un pestiféré, quoi, comme si j'étais vraiment une espèce de... Ils étaient très hautains. Enfin, en tout cas, je le ressentais comme ça. C'était peut-être pas vrai, mais moi, je le ressentais une espèce de mépris social, de mépris de classe. Et surtout, quand je les entendais parler de ce qu'ils appelaient le peuple, c'était voilà, c'est déjà voilà quoi. Eux-mêmes n'étaient pas dans le peuple, quoi. Le peuple, c'est nous tous. Hein. C'est le principe du peuple. Mais eux, pour eux, c'était quand ils parlaient des gens, quoi. Les gens, eux, ils n'étaient pas des gens. Ils étaient de naissance et d'extraction sociale et en plus ils avaient grandi, ils étaient dans les lycées, on leur avait expliqué qu'ils étaient l'élite à venir, etc. Et voilà quoi. Et ça m'a et au même moment, bon bah j'avais un prof de sociologie assez formidable, un peu égaré dans cette université très très libérale, très de droite, etc. Et lui il nous a fait étudier un sociologue très connu, important, qui s'appelle Pierre Bourdieu, et qui, en fait, quand j'ai lu Pierre Bourdieu, puis plus tard, une écrivaine qui a eu le prix Nobel cette année, qui s'appelle Annie Ernaux, qui a, comment dire, traduit en littérature toutes ces questions-là, autour des différences sociales, des classes sociales, etc. J'ai eu l'impression de comprendre ce que je ressentais un peu confusément, voilà. Et en changeant de milieu, en me frottant à d'autres milieux sociaux, etc., et en étant heurté parce que j'entendais et par les Et après, quand j'ai écrit mon premier roman, naturellement, ça, c'est des questions qui me hantaient, que j'avais beaucoup travaillé et que j'ai voulu traiter, mais traiter sans discours, sans explications, traiter à travers des scènes, tout simplement, et à travers ces scènes-là, notamment. Voilà. Et c'était des questions qui, à l'époque, étaient, à part Annie Ernaux, qui étaient très peu présentes dans le roman français aussi. Le roman était français à ce moment-là, était extrêmement, enfin, était écrit très majoritairement, donc c'était il y a 25 ans, par des gens qui venaient plutôt des hautes sphères de la société, et qui trouvaient normal d'ailleurs qu'on ait un vocabulaire du genre classe supérieure, classe moyenne, classe inférieure. Vous voyez, c'est déjà rien que dans les mots, cette hiérarchie, elle est atroce, quoi. À quel moment on est inférieur, à quel moment on est moyen? Parce qu'on n'a pas fait telles études, parce qu'on ne va pas en vacances à Courchevel, parce qu'on ne gagne pas tant d'argent et tout ça. Enfin, tout ce discours qu'on entend, hein, même notre cher président, il parlait des gens qui ne sont rien. Enfin, ça n'en finit jamais, quoi, cette espèce de choses-là. Donc voilà.
Moi, ça va un peu rejoindre ce qu'a dit ma camarade à côté. Parce que lors de la scène de la fête, qui se déroule dans le quartier du Luxembourg à Paris, Claire se confronte à des jeunes gens aisés qui se désintéressent d'elle à partir du moment où ils apprennent qu'elle est seulement caissière, que c'est son vrai métier et pas un job alimentaire, par exemple. Là, à partir du moment comme ça, bref, ces scènes nous ont beaucoup marqué. Est-ce que pour vous, en tant qu'écrivain, vous voulez faire passer un message à travers l'évocation et la description de ces situations? Et quel serait ce message?
D'abord, moi, ce qui... Quand j'ai commencé à écrire, j'ai été éclairé, déverrouillé par la découverte de certains auteurs, notamment américains, dont un auteur qui s'appelle Raymond Carver, parce que tout à coup, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je lisais en général en littérature française, en fait, il y avait des livres et des romans et des nouvelles qui parlaient du monde que je connaissais et dont j'étais issu. Et ça m'a autorisé à le faire, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, on a le droit, quoi. On a le droit d'écrire des romans où les mecs sont pas tous dans des appartements de 800 mètres carrés avec des métiers d'avocat, de machin, de trucs. On peut parler de la majorité des gens, quoi. On peut parler du monde dans lequel j'ai grandi, tout à fait moyen, normal, et dont je me disais, mais en fait, c'est étonnant. En fait, le message, c'était ça, c'était comment il se fait que la littérature qui est censée parler de la société ne parle pas de la majorité des gens qui composent cette société. C'était un problème mathématique pour moi. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut donner à entendre quelque chose sur la société française? Ou même dire, essayer de dire comment on vit, comment nous vivons, et que ce nous, que de ce nous s'absente la majorité des gens, de certaine manière. On représente tout le monde sauf la majorité des gens. Je trouvais ça très, 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 très étrange. Et donc, moi, mon premier réflexe quand je suis arrivé en tant que romancier, et que j'ai fait dans tous mes premiers livres, c'était d'abord de dire, si je veux parler de la société, dire quelque chose de la société, en plus de dire des choses de l'intime, de comment on vit, etc., eh ben, je vais m'attacher à son cœur majoritaire. Donc je vais m'attacher à ce qu'on appellerait les classes populaires, les classes moyennes, etc., parce que ça me semblait le plus opérant. Et alors, ce qui a été drôle, c'est que dès mon premier livre, quand j'ai écrit ce livre-là, comme mon héroïne était caissière, qu'elle venait de banlieue parisienne, que ses parents, et s'est dit à un moment donné, n'ont pas vraiment fait d'études, ont des situations très normales, moyennes et tout ça, et ben, on m'a qualifié de roman social, de romancier social. Voilà, c'est une étiquette. Et moi, je ne comprenais pas, quoi, parce que je ne fais pas du social. Je raconte la vie de la majorité. C'est pas un acte... Ça ne me semblait pas un acte politique ni social. Ça me semblait juste quelque chose de juste à faire. Et c'était aussi tout simplement parler de ce que je connaissais. Parce que c'est important quand on commence à parler et de s'adresser aux autres, de parler de ce qu'on connaît. Parce que parler de ce qu'on ne connaît pas, d'où on prend la parole sur ce qu'on ne connaît pas, quoi. Donc moi, je me suis contenté de raconter des histoires avec des gens qu'auraient pu être mes voisins, mes cousins, mes parents, mes frères. Et donc, il n'y avait pas de volonté. C'était aussi naturel, quoi. Et évident pour moi de travailler là-dessus. Et donc, de me mettre du point de vue, par exemple, de Claire. Et de ne pas emprunter le point de vue de ces gens qui la traitent mal dans leurs grands appartements, avec leurs grandes soirées, leurs grandes études, et leurs parents riches, et leurs maisons secondaires, et tout ça. Parce que d'abord, je ne les connais pas, ces gens-là, je ne les connaissais pas. Je ne rencontrais pas, c'était pas. Enfin, où je les voyais dans la fac où je travaillais, mais où j'étais étudié, mais je n'étais pas ami avec eux. De toute façon, ils ne me parlaient pas. Et on n'avait pas les mêmes préoccupations, les mêmes centres d'intérêt, la même vie. Donc voilà, donc l'idée, c'était de. À partir du moment où j'étais avec Claire, et où elle se retrouvait dans ces situations-là, évidemment qu'il y a du mépris social et de la condescendance. Donc voilà, je voulais travailler là-dessus.
Nous voudrions évoquer les lieux dans les voies contraires. Nous avons remarqué que la scène du cerf-volant casse le rythme. C'est une pause dans le récit, comme la scène sur la falaise. Ce sont des moments de suspense. La scène du cerf-volant nous a aussi fait penser au titre. Ces moments de suspense se passent dehors, au bord de la mer, où Paul et ses enfants passent énormément de temps. Ils mettent en relief le paysage maritime qui vous semble très important, au vu des descriptions présentes dans le livre. Ce paysage contraste beaucoup avec la maison que Paul et ses enfants ont quittée, une maison malade, lépreuse, qui les étouffait depuis la disparition de Sarah. Pouvez-vous nous raconter l'importance de ce paysage et est-ce que la scène du cerf-volant est celle qui a donné le nom au titre ?
Les lieux, pour moi, c'est vraiment un moteur d'écriture énorme, quoi. D'abord, quand j'ai choisi le lieu, je me dis toujours j'ai le livre. Parce qu'un lieu, c'est non seulement une lumière, une atmosphère, un décor comme dans un décor de cinéma, quoi, hein, mais c'est forcément des histoires, c'est des gens, c'est une sociologie particulière, c'est une manière à la fois singulière et collective d'être traversée par tout ce qui traverse un pays. Si à un moment donné j'écris un truc qui se passe à Marseille, ça va nécessairement avoir une teinte, un son, une lumière différente d'un livre que je vais écrire, que je vais faire se dérouler en Bretagne ou ailleurs. Et ça va être à la fois des problématiques spécifiques à la ville de Marseille et en même temps des problématiques qui traversent, bien sûr, tout le pays, la société française en entier. Quand j'ai écrit ce livre-là, ça faisait quelques années que je commençais à vivre dans l'endroit où dans la ville, donc à Saint-Malo, dans l'endroit. Et franchement, j'étais dans une espèce de telle connexion avec ce lieu, avec ces paysages, et avec les gens qui vivaient là, et avec les problèmes spécifiques qu'il y a dans ce genre de villes, qui sont des villes qui ont des... D'abord des distorsions sociales aussi, encore une fois très importantes, entre le littoral très bourgeois l'arrière de la ville, habité par les gens qui font vivre cette ville un peu au service des vacanciers, des touristes, etc. Et qui sont des villes aussi qui se gonflent pendant tout l'été et qui, une fois les touristes partis, flottent dans leurs propres vêtements un peu, et qui ont un petit côté fantomatique. C'est des villes trop grande pour elle-même. Donc j'avais envie de traiter ce lieu autant que de traiter Paul et ses enfants, et donc que cette ville et ceux qui l'habitent soient vraiment faire le portrait d'une communauté et d'un lieu, quoi. Voilà. Et après, la manière dont les deux s'imbriquent, c'est que les gens que Paul va rencontrer et qui composent cette ville et qui ont leurs propres problèmes liés à cette ville et liés à leur propre vie enfin, il va y avoir une consolation collective, quoi, une manière, une manière d'être ensemble, quoi, de serrer un peu les coudes, chacun face à ses problèmes, mais tous en même temps. Et puis il y a une action de du littoral, de la mer, du vent, de la lumière, du sable, de la roche, des falaises. Qui le font se sentir, enfin, qui le ramène à la vie littéralement, quoi. C'est-à-dire que ça le réveille, quoi. Il y a beaucoup de scènes où il s'agit de se sentir vivant parce qu'à un moment donné, les éléments, vous en prenez plein la gueule et ils vous rappellent, à nouveau, vous sentez vos poumons, vous sentez le souffle rentrer dans vos narines et parcourir votre corps, vous sentez le monde physiquement, quoi, tout à coup. Votre présence au monde, elle est physique parce que, la Bretagne, on dit souvent la pluie. Bon, mais en vrai, la Bretagne, c'est le vent. C'est d'abord le vent. Il pleut pas autant qu'on dit, ou puis bon, il pleut 8 fois par jour, mais il fait beau aussi 8 fois par jour, comme on dit, mais surtout, c'est le vent. Le vent, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le vent, voilà, vous le prenez tout le temps à la gueule. Il faut avancer face au vent contraire, ce qui est le cas de Paul avec ses enfants qui essayent malgré tout d'avancer face au vent contraire. Mais c'est aussi un truc qui vous fout des claques tout le temps, quoi. Vous pouvez pas vous endormir avec ça. Et en même temps, ça vous saoule. Voilà. Donc il y avait vraiment cette idée-là. Et puis il y a la mer elle-même, c'est-à-dire là encore. Se plonger dans l'eau salée, nager dans l'immensité de l'océan, c'est vraiment à la fois éprouver sa minusculité, je dirais, dans le cosmos, quoi, mais c'est éprouver physiquement son rapport aux éléments et à la terre à laquelle on appartient et au vivant, quoi, et à la vie à laquelle on appartient. Donc c'est vraiment en permanence des trucs qui le réveille, le lave, lui redonne de la force, le remet à neuf, quoi. Tout le temps, il passe à la lessiveuse, quoi. Et quand il en peut plus, quand il pense qu'il va craquer, boum, il passe à la machine, quoi, du vent, de la pluie, de la mer froide, etc. Et ça le ravive. Et il va retrouver de la force pour continuer et tenir droit et debout, et se tenir debout avec ses enfants. Donc vraiment, tous ces aspects-là, ils sont... Ouais. Et puis l'autre chose, c'est que j'adore que les... Alors d'abord, j'adore faire des descriptions, et je sais que ça emmerde beaucoup de gens, mais moi, j'aime beaucoup ça. Et des fois, il y a des passages entiers que j'écris, en vrai, il faut bien raconter des histoires, mais des fois, mon objectif caché, c'est juste, à un moment donné, de décrire comment le soleil, la lumière tombe, le contraste de lumière, tout ça, sur telle falaise, à tel endroit, avec telle roche, telle couleur de l'eau, et tout ça. Et c'est vraiment un truc de peintre du dimanche, quoi. Hein. C'est vraiment... Je me dis qu'un jour, à la retraite, en fait, j'arrêterai de faire des romans. Je garderai ça pour moi, mais je ferai des poèmes de description, quoi. Et heureusement, personne ne lira, mais moi, ça me suffira comme on peint, quoi. Voyez, comme on fait une peinture d'un paysage, comme on prend une photo. Et en fait, le but caché, c'est que j'essaye de moi-même figer, comprendre la stupéfaction dans laquelle me plonge la beauté de certains endroits, quoi. Des espèces de moments parfaits esthétiquement de la nature, des lieux. Et des fois, j'ai envie de les saisir et de les retranscrire. Alors après, je raconte des histoires autour. Mais c'est... Voilà.
Donc, pour terminer cet entretien, nous voudrions vous interroger sur les fins de ces romans dont Je vais bien, ne t'en fais pas. La fin du roman reste ouverte et laisse espérer une suite. Nous aurions aimé avoir des détails quant à ce qui est arrivé à Loïc, comment Claire évolue après. Face à notre frustration, on en a même inventé d'autres. On a aussi eu l'impression qu'elle était incomplète car le lecteur, les parents de Claire et Julien, son copain, connaissent la vérité mais pas Claire. Alors que c'est pourtant elle qui avait mené l'enquête. Pourquoi avoir laissé Claire dans cette ignorance et avoir au contraire informé le lecteur de cet immense secret? Est-ce que, même si la fin reste ouverte, vous savez la fin de l'histoire?
Alors oui, d'abord Claire va le savoir. Ils vont devoir lui dire, hein. C'est tout le... D'ailleurs, le film finit aussi comme ça, hein. Ils partent au restaurant et on sent qu'à un moment donné, ils ont tous compris. Julien l'a compris, les parents le savent, tout le monde sait qui c'est, et ils vont devoir lui annoncer. C'est juste le chapitre d'après, mais vous n'avez pas besoin de moi pour l'imaginer, celui-là. Vous aviez besoin de moi pour comprendre petit à petit que c'était le père qui envoyait les cartes postales et comprendre qu'à un moment donné. Quelqu'un allait mettre fin à la comédie, un extérieur, parce que Julien va sur la tombe et qui voilà. Donc bien sûr qu'elle le saura. Après, moi aussi, quand j'ai des personnages comme ça et je les lâche, c'est difficile pour moi de les laisser comme ça. Mais il y a bien un moment donné, il faut leur lâcher la main, quoi, et qu'ils continuent à vivre. Mais du coup, ce que je fais, c'est que on les retrouve sous d'autres formes dans d'autres romans, quoi. C'est mon premier livre, et il y a beaucoup de ces personnages, comment dire, beaucoup de ces acteurs, je dirais, qu'on va retrouver dans tous mes autres livres. Claire, on la reverra dans d'autres livres, autrement. En tout cas, moi, c'était mon moyen de... Vous voyez, c'est comme si j'avais imaginé qu'il y avait une actrice qui jouait Claire, et que je me disais, c'était trop bien de tourner avec elle, donc je lui ai écrit d'autres rôles, quoi, vous voyez, à travers les autres livres. Et puis après, ce qui s'est passé vraiment, moi j'ai ma version. Et d'ailleurs, dans le film, à un moment donné, le personnage de Julien dit au père, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le père répond, un accident d'escalade. Voilà. Mais ce qui est assez marrant, c'est que je l'ai coécrit, ce film, avec le réalisateur. Et le réalisateur, lui, il est persuadé que quand Kadmerad répond un accident d'escalade, il pense qu'il dit la vérité. Et moi, je pense qu'il ment. Mais on a écrit tous les deux le même film. Et vous avez tous vu, enfin ceux qui ont vu le film, vous avez vu le même film. Mais moi, pour moi, il ment à ce moment-là. C'est vraiment une réplique où il ment. Et d'ailleurs, une grosse différence entre le livre et le film, c'est que dans le film, et ça, pour le coup, j'adore cette idée parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, le père s'en met plein la gueule dans la carte postale. Il y met, c'est-à-dire que il écrit des cartes postales à la place de Loïc dans lesquelles Loïc dit « Je veux pas revoir ce mon connard, papa, je veux pas le revoir, c'est un connard, machin. » Il s'en met plein la tronche et ça révèle tous les remords et les regrets qu'il a de tout ce qu'il a raté avec son fils et de combien il se sent responsable de la disparition de son fils. Voilà. Et j'en viens à ça parce que c'est lié. Moi, ça ne fait que renforcer le fait que dans le film, il ment. Parce que s'il s'accuse autant d'être responsable de la mort de son fils, c'est que d'une certaine manière, il a des raisons de le penser. Voilà. Donc pour moi, l'accident d'escalade, c'est du flan. Voilà. Donc moi, je pense... Moi, j'ai mon scénario à moi. Mais je pense que... pour moi, Loïc s'est suicidé. Et il s'est suicidé suite à quelque chose qu'il a révélé à son père qui a très mal réagi, en gros. Mais ça, c'est mon idée à moi. Mais en même temps, je voulais laisser chacun... voilà, ça fait 23 ans que le livre existe, ça fait 23 ans que des gens me demandent « Mais il s'est passé quoi ?» Je dis « Bah, vous pensez qu'il s'est passé quoi ?» Alors, vous pensez qu'il s'est passé quoi ? Non, mais... Enfin, quoi que vous pensiez, vous avez raison. Celle que chacun lit est la bonne, quoi. Voilà. Toutes les histoires que vous pouvez vous raconter sur ce qui s'est passé, est-ce que c'est un accident et le père n'a pas osé le dire et puis ils sont enferrés là-dedans, est-ce qu'il s'est suicidé? D'abord, l'hypothèse du suicide, elle est pas... moi, c'est la vraie réponse que je vous donne, c'est ça, c'est que pour moi, il s'est suicidé. Mais c'est pas écrit dans le livre. Voilà. Et pour ceux qui voient le film... qui pense que la vraie réponse c'est l'accident, moi j'y crois pas. Donc voilà. Pas à mon propre film.
J'ai une question. Dans les vents contraires, on voit que l'histoire elle se termine juste avant que Paul annonce à ses enfants ce qui est arrivé à Sarah. Elle nous a laissé un goût d'inachevé. Certains d'entre nous auraient aimé un dénouement plus spectaculaire, digne d'un roman policier ou d'un thriller. Justement, pourquoi avoir choisi cette fin?
Alors d'abord, du coup, l'annonce de c'est, alors, les gens qui ont fait le film ont dû avoir pensé la même chose que vous, puisque dans le film, il y a l'annonce aux enfants, qui est une scène d'ailleurs assez insoutenable, où c'est le frère qui annonce aux deux petits que donc leur mère est morte et qu'elle a été tuée. Et alors donc du coup tellement que je me souvenais pas que moi qu'elle n'était pas dans le livre, du coup, vous voyez, parce que encore une fois ça fait très longtemps que je l'ai écrit, donc je me souvenais pas que je laissais en plan comme ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que la dimension d'enquête et la dimension, entre guillemets, policière ou résolution d'une énigme et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est pas trop un moteur pour moi quand je lis. Pour moi, c'est juste un prétexte, quoi. C'est-à-dire, je sais pas comment dire, c'est un mal nécessaire. Il faut bien qu'il y ait une histoire. Il faut bien qu'il y ait un truc qui fait qu'on tourne les pages et qu'on a envie de savoir... parce qu'on a envie de savoir quand même qu'est-ce qui lui est arrivé à cette Sarah. Mais en vrai, je m'en fous, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment Paul et ses enfants vivent sans elle et face à cette disparition. C'est ça mon sujet. La résolution du truc. Donc il est possible que je l'ai bâclé, ou pas assez travaillé de ce point de vue-là, mais c'est quelque chose qui m'est très, très étranger. Mais c'est vrai que, je sais pas, quand je regarde une série ou un film... Alors, je vais être méchant, mais je trouve ça puéril le retournement final, la surprise finale, ou de lire un truc pour la fin, quoi. Parce que ça me vraiment ça m'intéresse pas. C'est comme si vous vous dites on va faire une promenade là, et à la fin il y a un super lac, et en fait pendant toute la promenade vous regardez rien, quoi. Et le seul truc, c'est « Ah, le lac !» Oh, bah, finalement, il n'est pas si bien que ça, donc du coup, il n'y a plus rien. Bon, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la promenade qui va jusqu'au lac. Si en plus, le lac est cool, c'est bien. Mais voilà. Donc, ce truc de l'intrigue... ce qui m'intéresse, moi, c'est les personnages et les relations entre les personnages. Voilà. Et éventuellement, ce qu'ils disent de nos vies et de la société dans laquelle on vit. Comment on vit aujourd'hui ? Comment vit notre société. Bon, après, donc voilà. Mais je sais que plein de lecteurs sont très attachés à ça, à la fin, à ce qui est une résolution, ou ce qui est une... Et en fait, dans Je vais bien, ne t'en fais pas, déjà, moi, je suis au max de la folie furieuse de scénario, quoi, si vous voulez. Hein. Le truc, putain, le jour où je me suis pensé, mais en fait, c'est le père qui écrit des cartes postales, j'étais comme un ouf. Je me dis, j'aurais une idée comme ça. Parce que c'est pas du tout dans ma structure mentale. Moi, ma structure mentale, c'est d'inventer des personnages, de parler de la société, etc. Mais inventer un retournement comme ça, un peu spectaculaire, d'ailleurs, je l'ai jamais refait. Hein. Et je pense que je le referai jamais.
Et il nous reste deux dernières questions à vous poser. Est-ce que c'est pour éviter le pathos que vous n'avez pas écrit le dialogue entre Paul et ses enfants ? Et la seconde, c'est est-ce que c'est un écho à la première scène où Paul dit que les mots lui manquent pour parler de la disparition de Sarah aux enfants ?
Je sais plus. Je sais plus pourquoi je l'ai pas fait. Franchement. Alors après, éviter le pathos, si vous voulez, ça c'est vraiment un truc. Il y a des. En fait, la question de l'émotion, elle est vraiment hyper importante. C'est-à-dire que c'est pas toujours bien vu de ne pas éviter l'émotion dans les romans, quoi. Bizarrement. Enfin, en tout cas, par la critique littéraire, par les lecteurs, c'est pas un problème. En général, au contraire, ils veulent de l'émotion. Et donc les critiques littéraires qui m'aiment pas me trouvent très pathos, justement. Vous voyez. Et moi, mon goût personnel, c'est un espèce de mélange de l'émotion et de la retenue. C'est vraiment j'adore l'idée du mélodrame, mais sec, quoi. Ouais. Donc, mais alors, à quel moment l'émotion, c'est un fil, quoi. Hein, c'est un truc de funambule. À quel moment vous êtes trop et ça dégouline et c'est du chantage à l'émotion. Et à quel moment vous méfiez tellement de l'émotion que vous êtes sec et qu'il n'y a plus rien, que le livre est un cœur sec. C'est un chemin très compliqué et on peut se fier qu'à sa propre... à ce qui nous émeut ou à ce que d'un coup on trouve trop dégoulinant de pathos, quoi. Voilà. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, j'ai dû me dire que la scène de l'annonce aurait été trop dégoulinante de pathos, et que j'ai évité de la faire pour ces raisons-là, sûrement. Mais franchement, là, je peux plus vous dire. Ça remonte à. Puis sûrement que j'avais bu, je m'en souviens plus, quoi. Non, je sais plus.
C'était la fin. Notre entretien se termine. Merci beaucoup, Olivier Adam, de notre part. Laissez-moi parler. Merci de notre part. Merci de notre part et de tous nos camarades d'avoir répondu à nos questions.
Applaudissements. Ben, merci.
C'est moi qui vous remercie pour vos questions, tout le travail que vous avez effectué et puis votre attention en plus pendant tout ce temps-là. Et donc voilà, c'était un vrai privilège de passer ce moment avec vous. Donc merci beaucoup.
Le festival Haut les Beaux Jours remercie Elodie Karaki qui a accompagné les lycéens dans la préparation de cette rencontre. Merci aux élèves et aux enseignants des lycées Perrier et Victor Hugo, ainsi qu'à la délégation académique aux arts et à la culture d'Aix-Marseille. Vous souhaitez en savoir plus sur les actions culturelles du festival dédié au public scolaire ? Rendez-vous sur le site hautlesbeauxjours.fr, rubrique Actions culturelles. Les références bibliographiques de l'auteur sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 8e édition du festival Haut les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage, Arthur Jam. Voix, Benoît Pacteau. Un podcast produit par Des livres comme des idées.